Lara. Ce qui se passe alors est inouï. Impossible. Et pourtant. Surprise totale et silencieuse, ce torrent. Afflux chaud, douche d'intériorité qui inonde soudain mes jambes et le tapis sous moi, éclaboussant les pédales du piano et les pieds de mon élève. Une surprise, une jouissance, une surprise. Tiède pour moi, merveilleuse. Oui, comme une jouissance, totale, inattendue. Ça ne dure que 2 ou 3 secondes. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rien senti de semblable. Ou alors si. Il y a des décennies de cela, toute petite fille soudain inondée de chaud dans mon lit, heureuse, étonnée, avant que l'âcre odeur ne me parvienne aux narines, avant que le chaud ne se transforme en froid. Alexis a dû avoir une association semblable car, tout en s'accrochant obstinément au fabuleux arpège de Chopin, il rougit jusqu'aux oreilles. Visage cramoisi. Non. Pourpre.
Alexis. Madame Mestral aurait-elle... C'est trop dingue. C'est inimaginable. Il ne s'est rien passé du tout.
Lara. Intense douleur maintenant, à la place de la surprise chaude. Déroutée et éperdue, je me fige. Fausse couche? Mort de l'enfant? Oh Dieu, oh mon Dieu, non, pas ça, pas ça maintenant. Mamotchka! Je m'écrie.
Alexis. C'en est trop. J'ai les mains qui tremblent, je ne comprends rien. Je voudrais être ailleurs, je m'en vais, je suis déjà parti. Loin? Non, je suis toujours là. Comment faire pour me lever? Que faire? Je n'ose même pas la regarder. Je ne veux même pas essayer de deviner ce qui se passe. Jamais connu pire incertitude. Paralysie totale. Joues, cuir chevelu, toute la tête en feu. Il faut bien que la situation se transforme d'une manière ou d'une autre. À l'étage au-dessus, le bruit d'une porte qui s'ouvre. Le bruit de pas dans le couloir, puis dans l'escalier. C'est la mère de Madame Mestral. Je l'ai déjà vue. Elle circule dans cette maison comme un fantôme. Petite vieille toute ronde, tassée, trapue, ridée, légère sur ses pieds. Elle a un chignon gris à moitié défait, les yeux bleus vifs et perçants. D'après maman, elle est russe et parle le français avec un fort accent. Perchée au bord de son fauteuil, Madame Mestral lève les yeux vers sa mère d'un air suppliant. La vieille hoche la tête et va jusqu'au téléphone. Oui, ce que je n'ai pas compris, elle l'a compris, puisqu'elle murmure dans le combiné quelques mots que je ne saisis pas, puis raccroche. Se retourne vers moi et me regarde de ses yeux bleus rieurs. Ils sont très très bleus. Jamais vu des yeux aussi bleus. Va, mon enfant. Tu peux rentrer chez toi. C'est tout pour aujourd'hui. Chopin, il va attendre un petit peu.
Sophia. Chopin peut attendre. Les roses et les delphiniums aussi. C'est une question de vie et de mort. Ah, ça y est. Le vieil hibou de la maison d'à côté passe la tête par la fenêtre pour nous espionner. Le salaud. Maintenant, il en profite pour se plaindre du bruit de l'ambulance. Qu'il crève. C'est des vieux comme lui qui donnent une mauvaise réputation aux vieux.
Robert. Regardez-la maintenant, ma belle épouse. Jeune femme d'ordinaire civilisée. Habillée, coiffée, chaussée, protégée par une culture, une éducation, une histoire, l'Europe, l'Occident, ainsi de suite, le piano. La voilà nue et horizontale sous une blouse blanche flottante, et ce qui se passe à l'intérieur de son corps est projeté sur des écrans en dessins erratiques et en images clignotantes. Tous ses rythmes les plus intimes, sang, cœur, entrailles, se muent en signaux électroniques qui disent « danger ». Parce que un autre être cherche à devenir. Les personnes verticales s'agitent, s'angoissent. Moi, je suis vertical, par exemple. Moi, le peut-être père, peut-être pas, ça dépend. Affolé, arraché à un colloque universitaire où je devais faire une intervention sur l'instinct grégaire des souris blanches. Et puis Sophia, la peut-être grand-mère. Verticale, oui, quoique un peu courbée. Pour ne rien dire des médecins et des infirmières, êtres pensants et verticaux, singuliers, touchants, avec chacun son histoire, ses talents, ses penchants, ses névroses, mais de tout ça, tout le monde s'en fout pour le moment. C'est une question de vie et de mort. L'émotion pure et forte, trop forte, est prise en charge par des mots et des gestes scientifiques, professionnels, maîtrisés. Du blanc partout. Murs, plafonds, draps, blouses, masques, bonnets, gants, pantoufles. Tout est blanc et stérile. Curieux comme les expériences limites se déroulent si souvent dans la blancheur. Naissance, mort et folie. États extrêmes où se franchit la frontière entre l'être et le néant. Grands mots, grandes choses. Silence et cris, râle, pleure. L'en deçà, l'au-delà du langage vécu chaque fois dans ce blanc, cette matité, cet étouffement. Risque pour l'enfant, dit maintenant le docteur Fabien. Césarienne, dit le docteur Fabien 2 minutes plus tard. Voilà quelques-uns des mots qu'il prononce. Je le regarde, nos yeux se rencontrent par-dessus nos masques blancs. Puis je regarde ma femme Lara, qui n'arrive pas à savoir si elle souffre davantage pour elle-même, la douleur, ou pour son enfant, la peur. La lutte entre les deux souffrances doit rendre son cerveau passablement chaotique. Elle a horreur de se sentir si désemparée, impuissante, à la merci des autres. Surtout devant sa stoïque de maman. Sophia, par bonheur, comprend et s'éloigne. « Je vais m'asseoir un moment dans le couloir, » dit-elle à l'infirmière. « Je tiens plus sur mes pieds, » ajoute-t-elle. « Ils sont vieux, mes pieds. » Des pattes d'oie apparaissent au coin des yeux de l'infirmière. Elle doit sourire sous son masque. Ça va vite. Soudain, Lara ne souffre plus. Elle est là, mais son ventre n'est plus là. Je lui tiens la main, lui serre la main, lui embrasse le front, lui éponge le front, lui souffle sur le front. Les muscles de son bas-ventre sont en train d'être sectionnés et c'est important de ne pas regarder ça, de se regarder l'un l'autre, au contraire, pendant que ça se passe, au fond des yeux. Je t'aime, Lara. Tu te rends compte? On est déjà un vieux couple, Robert et Lara, Lara et Robert. Tous les faits de notre vie commune, brusquement rassemblés, tu, fondus en ce seul regard. Oui, la soirée extatique de notre rencontre quand je t'ai vu à l'opéra, ton dos nu au piano, mon amour. Je n'ai pas entendu une note de ce que tu jouais, je n'arrivais pas à détacher les yeux de tes omoplates. Et ensuite, peu à peu, dans les mois qui ont suivi, j'ai appris ta fragilité, cette plainte perpétuelle sous la surface, que tu ne t'aimais pas, que la musique ne te rendait pas heureuse. J'ai eu envie de t'aimer pour deux, pour moi et pour toi. Je me rappelle comme tu étais resplendissante, Lara, le jour de notre mariage. Je me rappelle nos séjours à l'étranger, nos petits déjeuners, nos querelles, nos accouplements. Et l'arrivée inopinée de Sophia dans la maison il y a 5 ans, pour raison de santé. Et là, enfin, après 10 ans de mariage et 3 fausses couches, cet espoir inattendu, énorme. Comment s'appelle-t-elle ? La voix du docteur Fabien est grave, mais pleine de bonté. Je te regarde, Lara, et tu me regardes. On n'y avait pas réfléchi. Ni nom de garçon, ni nom de fille. Pas de nom. À 5 mois et demi, c'était trop tôt, peut-être. Par superstition, pas de nom. Elle a déjà quitté la pièce, notre fille. On a eu à peine le temps de l'apercevoir que les infirmières l'emmenaient déjà. C'est ça ? C'est ça notre enfant, Lara ? Mon Dieu, n'est-ce pas plutôt un moineau ? Le docteur Fabien revient et annonce. Elle pèse 720 grammes. Je l'entends prononcer ces mots et puis les mots suivants. On va faire notre possible pour la sauver, mais il vaut mieux vous préparer. Il est calme en disant cela. Il ne prend pas un air dramatique. Il est presque froid, et sa froideur me fait du bien, me rassure. Les mots continuent de sortir de sa bouche. Pas de pronostic pour l'instant, dit-il. Avant les 72 heures, tout est trop aléatoire.
Lara. Vis, ma petite. Sois forte, vis. Tu es presque invisible dans ta bulle de verre. Petite fée prise dans une énorme goutte de pluie. Je me penche sur toi, très près, pour te scruter. Tu as la bouche entrouverte sur une sonde. Je n'ai pas encore le droit de te nourrir, mais je te nourrirai, tu verras. Je te gaverai de nourriture, terrestre et céleste. Pour l'instant, tu es nourri par un cathéter passé dans ton ombilic. Scotché à ta poitrine, de froides électrodes en forme d'araignée suivent attentivement les battements de ton cœur. Quand les infirmières approchent de la couveuse, c'est pour te faire des piqûres au talon ou pour chercher sur ton cuir chevelu une veine ou accrocher une perfusion. Le monde n'arrête pas de t'agresser. Seringues, tubes, aiguilles te pénètrent, traversent ta peau, sondent tes orifices, et tu pleures silencieusement. Ton visage se plisse et se contorsionne dans les mimiques des larmes, mais on n'entend rien, car la sonde d'intubation passe entre tes cordes vocales et empêche le son de sortir. Accroché à la vie par un fil incroyablement ténu, tu flottes dans les limbes entre ce monde-ci et l'autre. Et je t'aime, ma grande prématurée. Je t'aime et je te sauverai. Tu verras. Je t'ai donné la vie, je ne permettrai pas qu'on te la reprenne. Vie, toi qui n'as pas de nom.
Robert. Je rentre à la maison avec Sophia. Content que ma belle-mère soit là, à mes côtés, dans la voiture, solide, elle-même. Quelle que soit l'issue de cette crise, Sophia saura la traverser. Elle est résignée de façon générale et définitive, mais avec humour. Elle en a vu d'autres, et d'autres encore, avant de quitter sa Russie natale dans les années 50, pendant la tournée européenne de Sergueï, son violoniste de mari. Elle l'a plaqué dès leur arrivée en France, sans savoir qu'elle attendait un enfant de lui. Une enfant plutôt, Lara, la femme que j'aime. Vous savez, me dit Sophia une fois à la cuisine, tout en me préparant un thé russe avec une rasade de whisky comme elle sait que j'apprécie, comme elle sait que j'en ai besoin, moi, pas très sûr de moi, pas très reluisant, passablement remué par la vue de ce moineau qui est censé être mon enfant, notre enfant, ce bout de... Bref. Vous savez, me dit-elle, chez nous on dit que les vignes les plus vigoureuses, elles roulent le R, prononce vigoureuse. C'est les vignes plantées dans la terre avec beaucoup de pierres. Oui. Parce qu'elles ont besoin de lutter pour pousser des racines. Comme ça, elles sont plus fortes. Vous inquiétez pas. Elle va être forte, votre fille. Et même plus forte que les autres. Pas seulement elle va vivre, elle va aller loin. Vous verrez. J'ai bien aimé cette image des vignes. Ensuite, elle est allée jouer quelque chose au piano. Des petites danses, du Tchaïkovski peut-être. C'est rare maintenant qu'elle se mette au clavier, mais d'après Lara, c'était autrefois une pianiste remarquable, à Moscou, dans sa jeunesse. Ça m'a fait du bien, ces petites pièces. Presque comme des danses pour enfants. J'ai continué de siroter mon thé au whisky, puis je m'en suis servi un deuxième, santé cette fois. À l'hôpital, le lendemain, Lara me révèle le prénom qu'elle a choisi pour notre fille. Ce sera Maya. Je ne dis rien. L'important, je veux dire, à quoi bon avoir un prénom si... Et le docteur Fabien vient nous parler. Toujours cette manière calme et ferme dont je lui sais gré. Il énonce des faits. Lara a les yeux qui brillent. Je lui tiens la main et chaque mot du médecin s'imprime en nous. Les appareils, dit-il. Les appareils vont maintenir votre petite fille dans l'entre-deux de vivre et de mourir. Dans quelques jours, madame, vous rentrerez à la maison et ensuite, quand votre propre état le permettra, vous reviendrez la voir ici. Pendant plusieurs mois, au moins jusqu'à ce qu'elle arrive à terme, vous ne la verrez qu'en milieu stérile, accrochée aux machines. Mais il faut pendant ce temps qu'elle sente votre souffle de vie au plus profond de son être. Vous pouvez nous aider, c'est important. Donnez-lui la force et le désir de rester, de ne pas s'abandonner. Voilà ce qu'il dit, le docteur Fabien. Puis il quitte la pièce. Avec Lara, on se regarde et je vois que ses yeux brillent très fort. Non, pas de larmes. Elle n'est pas en train de pleurer.